Il est vraiment Dieu. C'est un Dieu merveilleux. Dans l'Apocalypse, il est dit qu'il est, il était et il vient. C'est merveilleux. Il était dans le passé. Aujourd'hui, il est et il sait ce que il sait ce qu'il y aura dans l'avenir. Quel Dieu merveilleux! Et Esaïe a vraiment insisté sur le point qu'il est Dieu, car personne en dehors de lui ne connaissait l'origine de toutes les choses. Les scientifiques, ils essayent de faire quelque chose au CERN. Ich höre nur mit dem linken Ohr. Ich höre nur mit dem linken Ohr. Et au CERN, et ils font beaucoup de recherches. Ah, voilà, c'est bon. Yeah. Qui peut créer l'univers comme Dieu? Tout sort de sa bouche. Et la Bible dit que tout vient de rien. Il appelle les choses en existence. Il doit seulement dire que la lumière soit. Et la lumière est. C'est tellement facile pour Dieu de créer l'univers. Et nous devons aussi reconnaître cela. Nous ne devons pas seulement savoir cela comme fait, comme connaissance. Mais comment ne peut-on pas apprécier et admirer ce Dieu merveilleux? On le voit déjà à partir de la première feuille de la Bible. Que la lumière soit, et la lumière fut, et ce n'était pas qu'une petite lumière. Il a tout créé par la parole de sa puissance. Qui ressemble à ce Dieu? Et aujourd'hui, nous avons la parole merveilleuse du Seigneur et nous ne le croyons pas. Il appelle en existence les choses qui n'existent pas. Et Abraham a cru à cela. Nous sommes les enfants d'Abraham. Alors nous devons aussi croire. Et il réveille les morts. Par exemple, Lazare, il l'a rendu à la vie. Il était mort. Dieu a réveillé Jésus-Christ d'entre les morts. Qui peut rendre les morts vivants aujourd'hui? C'est impossible. Même les scientifiques les plus intelligents, ils ne peuvent pas faire sortir quelqu'un de la tombe. Seul Dieu, nous devons tous voir que notre Dieu est merveilleux. Et lors de son ascension, il n'avait pas besoin de fusée. Et nous avons besoin de tant de puissance, d'argent. Et est-ce que ça va même marcher? Et ça va arriver jusqu'à quelle altitude? Le Seigneur n'en a pas besoin. Lui, il monte tout simplement. Qui ressemble à notre Seigneur? Toutes ces choses sont étonnantes. Et au chapitre 40, il a parlé de Jean-Baptiste sans le mentionner. Et Maléachi dit que c'est Élie. En fait, Élie est venu. Jean-Baptiste est venu par l'esprit d'Élie. Le Seigneur avait tout prévu dans Esaïe. Il a montré quelle était sa mission. Et Jean a dit, je suis cette voix. Ésaïe l'avait déjà dit depuis plus de 700 ans. Est-ce que nous n'apprécions pas cela ou est-ce que c'est simplement une information? Dieu ne l'a pas dit afin que nous ayons des informations. Il voulait nous montrer quel Dieu il était. Et ensuite, concernant Cyrus, il a dit qu'il viendrait. Et quelle était sa mission lors de sa venue? Qu'est-ce que Dieu voulait faire avec lui? C'est unique. C'est un Dieu puissant. Tout puissant. Quand le Seigneur le dit, il est sérieux. Toutes choses sont possibles avec Dieu. Ce n'est pas possible pour les hommes. Tu n'as pas besoin de te faire des soucis, car toutes choses sont possibles pour lui. C'est un Dieu merveilleux. Maintenant, nous allons voir chapitre 42. C'est plus important que tout le reste. La révélation concernant le Messie est le plus important. Louez le Seigneur pour ce Christ merveilleux. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Est-ce que Dieu n'a pas dit clairement, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai du plaisir, en qui j'ai mis tout mon plaisir? Et c'est le seul serviteur qui est véritablement fidèle. Le Seigneur était fidèle en toutes choses et c'est pourquoi nous apprécions Christ aujourd'hui comme l'Holocauste. Beaucoup de personnes savent qu'il est notre offrande pour le péché et pour les transgressions, mais ils ne veulent rien savoir de Jésus-Christ qui est notre Holocauste. Ils n'apprécient pas cela. Mais l'Holocauste se trouve à la première place pour Dieu parce que c'est ce qui est le plus important pour Dieu. Lorsque le Seigneur est venu sur terre, il était ce serviteur fidèle. Il était tellement fidèle. Il a mené une vie qui n'était que pour Dieu. Dieu apprécie cela. Il était obéissant jusqu'à la mort à la croix. Un tel Christ merveilleux. En tout temps, il a mené une vie qui plaisait à Dieu. Et nous? Combien de fois avons-nous mené une vie qui l'a rendu triste, qui l'a offensé? Une vie qui n'était pas agréable pour lui, qui ne lui plaisait pas, et nous avons fait ce que nous voulions, et nous pensons des choses qui ne lui plaisent pas. Nous disons des paroles qui ne sont pas agréables pour le Père. Nous allons là où le Père ne veut pas que nous allions. Nous faisons des choses qui nous plaisent. Nous n'avons pas besoin de Christ comme cet holocauste. Et ici, nous voyons, voici mon serviteur que je soutiens. Mon élu. C'est comme cette pierre qui était précieuse pour Dieu, mais qui a été rejetée. C'était une pierre qui avait été choisie et qui était précieuse pour Dieu. Bien sûr, Israël, c'est mon serviteur. Mais quel genre de serviteur? Raide de cou, avec le cou raide. Est-ce que nous ne sommes pas désobéissants? Oui, bien sûr, nous sommes tous des serviteurs du Seigneur. Mais nous ne lui sommes pas tant agréables que cela. Pas comme ce serviteur. Mon élu. Ce mot est merveilleux. En qui mon âme prend plaisir? Un tel serviteur, un tel esclave, en toute chose, il était agréable au Père. Il a mené une telle vie. C'est pourquoi Hébreux dit, chapitre 2, que notre Seigneur était fidèle sur toute la maison de Dieu. Nous ne sommes pas fidèles. Nous n'étions pas fidèles. Peut-être en certaines choses qui nous plaisaient, nous sommes fidèles. Je suis fidèle tant que cela me plaît, mais si cela ne me plaît pas, je ne suis plus fidèle. Ça, c'est justement le problème. Ça, c'est justement le problème. Christ, comme fils sur la maison de Dieu, et nous sommes sa maison, lui était tellement fidèle. Aucun de nous n'est aussi fidèle que lui. Nous ne lui approchons pas du tout dans ce sens-là. C'est pourquoi il y a tant de confusion dans la maison de Dieu aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas fidèles. J'ai mis mon esprit sur lui. Quel genre d'esprit? Où se trouve cet esprit? Nous n'allons jamais oublier cela. Chapitre 11. Un tel esprit merveilleux. Et nous devons l'expérimenter aujourd'hui. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Et il a fait tout cela de manière si fidèle. Parce que nous ne sommes pas fidèles, nous changeons. Aujourd'hui, nous voyons l'Église, demain, nous ne la voyons plus. Nous voyons autre chose et nous sommes attirés vers une chose et vers une autre. Nous changeons autant que le temps. Parfois, le soleil brille, parfois, il pleut. Nous sommes comme cela. Avant, on disait, oh, alléluia pour l'Église, mais comment, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien. Nous sommes comme cela. Je suis comme cela. Si nous ne prenons pas Christ comme notre holocauste. S'il y a quelques problèmes, je change d'opinion. Oh, c'est sûrement pas ça. Si c'est du Seigneur, pourquoi y a-t-il tant de problèmes? J'argumente ainsi. Mais le Seigneur, lui, il a des milliers de plus de problèmes, mais lui n'a jamais changé d'opinion. Et nous, lorsque nous avons un petit problème, on dit, oh, c'est certainement pas du Seigneur. Parce que nous n'avons pas reconnu clairement ce qui se trouve dans le cœur du Père. Rappelez-vous que le Seigneur, il est venu du sein du Père. Il avait une mission très claire de la part du Père. Et c'était égal combien c'était difficile. Il était un serviteur, un esclave fidèle. Il est allé immédiatement à la croix. Il ne se laissait pas détourner, peu importe la difficulté de la situation. C'est ça, cet esclave fidèle. Et c'est pourquoi nous apprécions l'Holocauste. Seigneur, tu es l'Holocauste. Tu plais au Père. Et si nous apprécions l'Holocauste, alors nous allons être rendus de plus en plus conformes. Nous voulons expérimenter le Seigneur de manière diverse, mais pas en tant que l'Holocauste. Oh oui, je veux bien expérimenter ceci ou cela, mais l'Holocauste, à quoi cela sert-il? Mais ça, c'est une expérience bien spécifique. Cela nous amène au but. Mon serviteur ou mon esclave, mon élu, celui que j'ai choisi, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Souvent, nous crions. Ma voix, elle est toujours trop forte. Parce que nous avons l'habitude de crier. Depuis le premier jour de la naissance, je crie. Jusqu'à aujourd'hui, nous crions. Nous crions toujours de plus en plus fort. Mais le Seigneur, lui, ne crie pas. Quelle humanité! Ce que Dieu apprécie avant tout, c'est son humanité. Quel homme! Nous nous disputons et on aime bien se disputer. Nous avons toujours quelque chose à dire, peu importe dans quelle situation. Nous réagissons rapidement. Mais lui ne crie pas. Il n'élèvera point la voix. On n'a pas le temps parce qu'il y a tellement de chapitres. On a pu revoir tous les versets des premiers 12 chapitres, mais malheureusement, cette fois, on n'a pas eu assez de temps pour travailler le texte, pour regarder toutes les paroles. Je suis arrivée trop tard, j'étais trop paresseux, je me repens. On n'entend pas sa voix dans la rue. Nous ne nous disputons pas seulement, mais nous répandons nos disputes partout sur la terre. Je ne suis pas seulement contre toi, mais je vais répandre cette dispute sur toute la terre. C'est pour cela que vous avez reçu une lettre de la Pologne. Pourquoi? Pourquoi? C'est cette méchanceté des hommes, c'est la chair des hommes. C'est beaucoup mieux si nous répandons la bonne nouvelle que notre méchanceté. Ça, c'est vraiment affreux. Nous sommes autrement que notre Seigneur. Oh, c'est mieux que je ne parle pas de cela, pas trop. Et ne le fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Qui n'est pas cassé aujourd'hui? qui n'est pas plié, cassé. Parfois, si nous faisons une petite faute, je découvre une petite faute, oh, je te renvoie. Tu es cassé, tu es comme un roseau cassé, un roseau qui est plié. Si le Seigneur fait cela avec nous, alors il n'y aura personne dans l'Église, car nous sommes tous un peu cassés ou courbés ou pliés. N'est-ce pas? Nous avons tous des fautes. C'est très étonnant. J'ai des fautes, mais moi j'exige qu'un autre frère, il n'ait pas de fautes. Ça, c'est aussi une maladie. Moi, je ne suis pas parfait, mais moi, je m'attends à ce que l'autre frère soit parfait. Mais le Seigneur, lui, il est tellement parfait, mais il n'exige pas que nous soyons parfaits. Il n'est pas comme nous. Et c'est pourquoi nous apprécions l'humanité du Seigneur, l'offrande de fines fleurs de farine. Nous en avons besoin dans l'Église. Son humanité doit remplacer la mienne. Certaines personnes disent que nous n'en avons pas besoin, peut-être qu'ils n'en ont pas besoin, mais nous, nous en avons besoin et nous l'apprécions. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Nous pensons que oh, ça n'a pas de sens, je souffle dessus et je prends une autre bougie. Il ne se découragera point. Il ne se découragera point. Lorsque le Seigneur a servi, lisez, il n'a jamais abandonné. Il avait toujours du temps pour le peuple. Il n'était jamais fatigué. Cela ne veut pas dire qu'il ne se sentait pas fatigué. Il était aussi un homme, mais il ne laissait pas la fatigue régner sur lui. Et il ne se relâchera point. Souvent, nous nous laissons aller. Si on a trop de travail, on doit aller en vacances. Et même si on n'a pas trop de travail, on fait aussi des vacances. C'est comme ça. Il ne se fatigue pas. Oh, je suis déjà fatiguée avant de voyager. Lorsque je pense au voyage, je me sens déjà fatiguée, même avant d'entrer dans l'avion. Oui, j'ai honte. Mais que dois-je faire? Il ne se relâchera point, ou bien il ne se laisse pas aller. Nous devons apprécier ce serviteur. Souvent, nous apprécions le fait qu'il est mort à la croix, mais nous n'apprécions pas son être. Comment il a servi? Quel esclave était cet homme? Et Ésaïe avait déjà prédit tout cela. N'est-ce pas merveilleux? Comment lui savait-il tout cela? Et même lorsque nous lisons cela dans les évangiles, nous ne l'apprécions pas, nous ne le remarquons pas, nous prenons ça comme si ça allait de soi, mais nous n'avons pas cette appréciation pour cela. Nous voulons servir Dieu, mais pas comme lui. Et nous avons beaucoup de raisons pour ceci, pour cela. Et nous murmurons, nous nous plaignons, nous nous plaignons. Oh, ça, je ne le fais plus. Ou bien, nous abandonnons. Il ne se fatigue pas. Il ne va pas se relâcher jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Il mène la chose jusqu'au bout. Il mène l'affaire jusqu'au bout. Mais nous servons autrement, malheureusement. Et c'est pourquoi le Seigneur a toujours besoin d'un reste qui va de l'avant. Parce que ceux qui ont commencé, ils n'ont pas continué. À la fin, ils sont fatigués. Ils abandonnent, ils ne veulent plus aller de l'avant, etc. Alors, le Seigneur doit trouver un petit reste pour continuer. Et ça, c'est l'histoire de ces 2000 ans passés. Nous ne sommes pas fidèles. Au début, il y avait beaucoup de feu. Et ensuite, on est resté sur place et nous ne voulons plus rien prendre du Seigneur. Nous disons, nous n'en avons plus besoin et on n'a plus besoin de nouvelles révélations et nous réchauffons la vieille révélation. C'est ce que l'Écriture nous dit. Et puis après, il vous reproche que vous avez causé une division. Nous sommes tous ces esclaves, ces serviteurs. Jour après jour, nous devons préparer cet holocauste, l'offrande de fleurs de farine. Nous aurons besoin de sa fidélité. Paul a dit, est-ce qu'on s'attend d'un serviteur qu'il soit capable? Non, qu'il soit fidèle. Et le Seigneur est le témoin fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Et Ésaïe a déjà prédit, nous ne sommes pas pour un gain quelconque, nous ne sommes pas pour une position, nous ne sommes pas pour être loués, pour être élevés par les personnes, pour être reconnus par les personnes. Lorsque nous servons et que personne ne le reconnaît, nous disons, oh, personne n'apprécie ce que je fais. Nous voulons être reconnus, nous voulons avoir l'autorité, nous voulons remplacer Christ, nous voulons nous asseoir sur le trône et nous ne voulons, même si nous sommes devenus Shebna, nous ne voulons rester encore sur le trône. Nous ne voulons pas être démis de notre position. Nous avons besoin de cet administrateur fidèle, Eliakim. Nous sommes tous comme Shebna. Dans la chair, nous sommes infidèles. À un moment précis, ça s'arrête chez nous. Et c'est pourquoi Christ doit nous remplir, nous remplacer. Et c'est pourquoi les offrandes sont si importantes et si précieuses. Bien sûr, nous ne pouvons pas forcer qui que ce soit à faire cela. Qui peut forcer quelqu'un à apprécier cela? Mais celui qui a des yeux, il pourra voir. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et ce Jésus-Christ, il est vraiment notre offrande pour la paix. Lui n'a pas de problème avec Dieu. Il est en harmonie complète avec Dieu. Et nous, nous faisons des bruits. Nous faisons simplement du bruit, un potin. Nous nous plaignons. Nous parlons de l'unité. Mais c'est l'unité avec qui? Est-ce que c'est l'unité avec le Père? Ou est-ce que c'est simplement une unité parmi nous? Une drôle d'unité. Mais le Seigneur, lui, il était pleinement un avec le Père. Cela veut dire qu'il n'avait aucun problème avec le Père. Mais nous avons besoin de beaucoup de réconciliation avec le Père, car nous avons œuvré contre le Père. Il ne va pas se fatiguer jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Un jour, lorsque le Seigneur reviendra, aujourd'hui, nous avons ce privilège d'observer son enseignement, d'observer sa parole, chaque mot qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons apprécier chaque parole. Quel Messie, quel Christ. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés. Nous voyons de nouveau ce grand Dieu qui a créé les cieux et qui a étendu la terre et ses productions. Qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Nous devons voir cela toujours à nouveau. Moi, l'Éternel, verset 6, je t'ai appelé pour le salut. C'est ce Christ merveilleux. Je t'ai appelé dans la justice et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. C'est Dieu qui a mené sa main, qui a pris sa main. Ne pensons pas que nous sommes tellement capables de faire l'œuvre de Dieu sans sa conduite. Non. Personne n'est aussi capable. Après tant d'années, certains d'entre nous ont appris quelque chose. On pense pas qu'on peut faire ceci ou cela. Et même à la fin, certains ont eu l'habitude de simplement entreprendre des choses sans consulter le Seigneur. Je veux te garder. Je te prends par ta main. Je t'ai appelé dans la justice. Combien de nous sentent depuis le début que le Seigneur les a appelés? On dit plutôt, Seigneur, me voici, je suis volontaire. Et quelqu'un d'autre nous a appelés, nous a installés, instaurés et nous a payés. Combien de serviteurs du Seigneur aujourd'hui ont été véritablement appelés par Dieu dans la justice? Verset 6 en allemand, c'est « Je t'ai appelé dans la justice ». Et je veux te garder. Nous devons souvent prier, « Seigneur, garde-moi ». Préserve-moi. Pas simplement afin que je reste en bonne santé, mais préserve-moi afin que je ne sois pas détourné et que j'aille sur un faux chemin, car il s'agit de l'œuvre de Dieu. Pour être, le Seigneur, il a introduit l'alliance. Quelle personne peut faire cela? Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Personne n'est capable pour cela. Moi pas, toi non plus, personne. Pour être la lumière des nations. Tout a été cité, tout a été confirmé dans les évangiles. C'est merveilleux. Le Seigneur avait déjà dit tout cela par Ésaïe pour être la lumière des nations. Où est-ce que tu vas recevoir de la lumière si ce n'est pas du Seigneur? Et la lumière, ça c'est autre chose que l'interprétation de la Bible. Non, la lumière, ça expose pour ouvrir les yeux des aveugles. Nous voyons tout cela dans le Nouveau Testament, tout ce que Ésaïe a dit. Pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres, ceux qui sont assis dans les ténèbres. Ils se trouvent sous l'ombre de la mort et ils ont vu une grande lumière. Et j'espère que de nouveau à Bade-Wurtemberg, à Fein, à Luni, en Europe, j'espère que par des serviteurs fidèles que beaucoup vont recevoir de lumière. Connaissant cette lumière et servant comme il a servi et qu'il puisse accomplir ce service par nous. Si nous servons comme notre Seigneur. L'Évangile est ici. N'est-ce pas ainsi? Matthieu, Marc, Luc, Jean et Ésaïe. C'est merveilleux. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, verset 8. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et un esclave doit aussi apprendre cela, car à la fin, tu voles la gloire du Seigneur. Tu dérobes la gloire du Seigneur. Tu voles sa gloire. Et à la fin, c'est toi qui es glorifié et non plus lui. Combien souvent nous voyons cela? À la fin, c'est moi qui ai l'autorité. Vous devez être un avec moi et vous devez m'écouter. On doit rejeter cela. Lorsque le Seigneur a servi sur terre, il ne s'est pas glorifié. Et cela doit être écrit dans vos cœurs, spécialement vous. C'est tellement facile de recevoir la louange des personnes ou d'apprécier cette louange. Lorsque les gens vous louent, vous devez fuir. Et tous, vous devez aussi apprendre de ne pas louer quelqu'un. Si tu loues quelqu'un, tu vas le corrompre. Et toi, tu es aussi coupable de cela. Toute la gloire, toute la louange, c'est pour les anciens. Ah non, désolé. Ah, ça c'est mon concept. C'est quelque chose qui est profondément enraciné dans mes pensées. Oh, je voulais dire toute la gloire est au Seigneur, mais un autre nom s'est échappé de mes lèvres. Mais la parole dit que sa gloire ne sera donnée à aucun autre. Malheur à nous si nous faisons cela. Verset 9. Voici, les premières choses se sont accomplies. Ce que Dieu avait prédit a été accompli. Même ses reproches, tous ses reproches envers Israël se sont aussi accomplis. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Si tout cela a été accompli, alors tu dois croire que ce qu'il dit concernant le futur va aussi s'accomplir. Nous n'avons pas de douter à ce sujet. Dieu nous a préparé un tel Christ. Et maintenant nous avons un chant. 10. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Si nous voyons ce Christ, nous devons le louer. Il y a une petite pause ici. Et pendant cette pause, nous devons le louer, car il est si merveilleux. Nous ne pouvons pas faire autrement que de le louer. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. Que le désert et ses villes élèvent la voix. Que les villages occupés par Kedar élèvent la voix. Cela veut dire que toute la terre et tous les habitants de la terre doivent le louer. Comme le Seigneur a dit, comme Paul l'a dit, tout genou doit fléchir. Et chaque langue doit reconnaître que Jésus est le Seigneur. Mais nous devons faire cela d'abord, aujourd'hui. Ils doivent tous jubiler. Ils doivent donner la gloire au Seigneur. Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles, etc. Verset 12. Qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles, on publie ses louanges. Et à la fin, nous voyons que le Seigneur est le combattant. Il n'est pas simplement un sauveur merveilleux. En tant que sauveur, dans son humanité, il est si doux. Il est le berger. Il ne crie pas, il ne se dispute pas, mais ça, c'est qu'un aspect. Il y a l'autre côté de la pièce de monnaie. Aujourd'hui, il est assis sur le trône et il va revenir comme un combattant, comme un guerrier. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. Il est celui qui est monté en ascension. Il est ce Christ victorieux et il va mettre tous ses ennemis sous ses pieds. Nous avons un Christ si merveilleux. Et nous devons connaître tous les aspects de ce Christ merveilleux, son humanité, sa fidélité. Lui qui était l'esclave du Seigneur, son œuvre rédemptrice à la croix. Il est l'agneau qui était muet, mais aujourd'hui il n'est plus muet. Aujourd'hui il est assis sur le trône et il va revenir. Et il va combattre. Nous devons aussi connaître cela. On ne doit pas seulement connaître un côté, un aspect du Seigneur. J'ai longtemps gardé le silence, 14. Je me suis tu, je me suis contenu. Le Seigneur a gardé le silence pendant très longtemps parce qu'il attend. Il attend que plus de personnes soient sauvées. Je me suis retenu. Nous ne pouvons pas nous retenir. Nous n'avons pas beaucoup de patience. Mais maintenant, je veux crier comme une femme en travail. Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Et ce temps va bientôt arriver. Bientôt. Quel Messie! Je ravagerai montagne et colline et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai les étangs à sec. Un tel Christ, avec tant d'aspects, combien connaissons-nous ce Seigneur? Ah, c'est déjà l'heure? Mais ensuite, il va être rejeté par son peuple. Quoique la parole soit si claire, vous pouvez lire tous les versets. Je n'ai plus besoin d'en parler. C'est bien si nous pouvons tous lire les versets. La parole n'est pas scellée pour nous. Nous pouvons la lire et la comprendre. Ce n'est pas comme le Seigneur a dit aux Juifs. Il a dit, lisez-la. Non, mais je ne peux pas. Elle est scellée. Je ne comprends pas. Les autres ne pouvaient pas lire. Ceux qui savaient lire pouvaient lire, mais ils ne comprenaient pas. Louez le Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons lire cette parole et nous pouvons la comprendre. Heureux ceux qui lisent et qui gardent la parole et qui la mettent en pratique. On peut encore prier.